إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on se retrouve aujourd'hui pour reprendre la lecture et l'explication du livre Manhaj al-Salikin de l'imam Abd al-Rahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous en sommes arrivés au passage sur la description des ablutions. Dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous décrire la manière de faire les ablutions. Et ceci nous a été en partie décrit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 6 de Surat al-Ma'ida. Puis les détails concernant la manière de faire les ablutions sont venus dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce dans de nombreux hadiths. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il s'est donc basé sur ces textes afin de nous décrire les ablutions et c'est d'une manière claire et concise. Et avant de commencer l'explication qu'il a donnée, je souhaite me rappeler à moi-même ainsi qu'à vous l'importance de ne pas négliger les ablutions. Car malheureusement, nombre d'entre nous, lorsqu'ils font les ablutions, ils n'ont pas conscience que ceci est une adoration immense par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette adoration, elle a de nombreux mérites. En effet, beaucoup de gens, lorsqu'ils font les ablutions, pensent simplement qu'ils se purifient afin de remplir cette condition de validité de la prière qui est de se purifier. Mais lorsque tu accomplis cette purification, lorsque tu fais tes ablutions, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ablutions sont une adoration en elle-même. Et cette adoration a de nombreux mérites. À titre d'exemple, les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens de ma communauté seront appelés au jour de la résurrection alors que leurs visages, leurs mains et leurs pieds seront illuminés en conséquence des ablutions. » En conséquence des ablutions, ils seront illuminés au jour de la résurrection en conséquence de ces ablutions que tu accomplis quotidiennement. Également, il est rapporté dans un autre hadith par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui parfait ses ablutions, c'est-à-dire celui qui accomplit ses ablutions de la meilleure manière, qu'il les accomplit comme il se doit, en respectant ses conditions, en s'appliquant à mettre en pratique ce qui est recommandé. Celui qui parfait ses ablutions, alors ses péchés sortiront de son corps jusqu'à sortir de sous ses ongles. » Et dans un autre hadith, il nous dit, radiyallahu ta'ala anhu, après avoir montré aux gens comment faire les ablutions, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions comme je viens de les faire. Puis il a dit, celui qui fait ses ablutions de cette manière, ses péchés passés lui seront pardonnés. Tu vois donc à travers ces hadiths l'importance de t'appliquer lorsque tu fais tes ablutions. Et afin de parfaire tes ablutions, il est nécessaire pour toi d'apprendre comment faire les ablutions. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait-il les ablutions afin de pouvoir profiter de ses mérites et de te voir pardonner tes péchés? Donc comme on a dit le cheikh rahimahullah ta'ala, il nous a décrit les ablutions ici d'une manière claire et concise. Et ce en 9 points. Il a dit rahimahullah, bab sifati al-wudu, chapitre de la description des ablutions. Wa huwa an yanwiya raf' al-hadath aw al-wudu lis-salah wa nahwiha. Il dit premièrement, les ablutions, elles consistent à quoi? À ce que tu aies l'intention de lever l'état d'impureté. C'est-à-dire que tu fais les ablutions afin de te purifier de cet état d'impureté qui t'empêche, par exemple, de faire la prière. Il dit qu'il ait l'intention de lever l'état d'impureté, ou alors qu'il ait l'intention de faire les ablutions, tout simplement, pour la prière ou autre chose semblable. Pour la prière, c'est clair, on a vu que les ablutions sont une condition de validité de la prière. Ou autre chose semblable, c'est-à-dire parmi les choses pour lesquelles il est légiféré d'être en état de pureté. Comme par exemple, si tu souhaites lire le Coran, et légiférer pour toi de faire avant cela tes ablutions. Ou alors le fait de se purifier avant de dormir. Il est également légiféré de faire les ablutions avant de dormir. Donc lorsque tu vas faire tes ablutions, il est indispensable que tu en aies l'intention. Et ce qui est visé par l'intention ici, c'est l'intention de l'acte. Et cette intention, elle se trouve dans le cœur. Tu n'as rien à prononcer, ni avec ta langue, et pas même dans ta tête. Car en réalité, l'intention, elle accompagne tous les actes de la personne douée de raison. C'est-à-dire qu'une personne qui est douée de raison, elle ne peut pas faire un acte sans intention. Chaque acte que tu accomplis, tu as forcément l'intention de les accomplir. Il n'y a que le fou, celui qui a perdu la raison, qui fait des actes sans en avoir l'intention. Donc si tu te lèves à l'heure de la prière, que tu te diriges vers la salle de bain, que tu ouvres le robinet et que tu commences à te laver les mains, c'est que tu as l'intention de faire tes ablutions. Si quelqu'un te voit faire, il saura que tu es en train de faire tes ablutions pour la prière. Ce n'est donc pas une chose compliquée, mais c'est quelque chose de très simple. Et j'insiste sur ce point, car il y a certaines personnes qui sont touchées par les wasawis, par les suggestions du diable au sujet de l'intention. Il commence à faire ses ablutions, puis lui vient le doute. Est-ce que j'ai bien mis l'intention? Il est en train de se laver le visage, il s'est rincé la bouche, le nez, puis il commence à douter. Le diable vient à lui et le fait douter de son intention. Ai-je bien mis l'intention des ablutions? Et ceci, comme on a dit, c'est une suggestion du diable de laquelle le musulman ne doit pas tenir compte. Mais tu dois t'en détourner. Si tu n'avais pas l'intention, tu ne te serais pas levé, tu n'aurais pas été à la salle de bain, tu n'aurais pas fait ces gestes. Si tu as fait tout cela, c'est que tu avais l'intention de faire tes ablutions. Donc, comme on a dit, l'intention, elle accompagne nécessairement les actes de la personne douée de raison. Il dit ensuite, rahimahullah, wa niyya shartun li jami'il a'mal min taharatin wa ghayriha. Il dit, l'intention, c'est une condition pour toutes les œuvres, c'est-à-dire une condition de validité pour tous les actes d'adoration. Il dit, comme la purification ou autre qu'elle. C'est une condition pour la purification, c'est une condition pour la prière, c'est une condition pour le jeûne, c'est une condition pour le pèlerinage, pour la umra, et ainsi de suite. C'est une condition de validité pour l'ensemble des actes. Il dit, rahimahullah, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa, muttafaqun alayhi. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, les actes ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc l'intention de l'acte, c'est une condition de validité des ablutions. Et comme on a dit, c'est quelque chose de simple qui se trouve dans le cœur, et tu n'as rien à prononcer, ni avec ta langue, ni dans ta tête. Et le fait de prononcer l'intention à haute voix, en disant je vais faire mes ablutions, pour telle prière ou autre chose semblable, les gens de science ont mentionné que ceci est une innovation. Ce n'est pas légiféré. Mais le simple fait de te lever, comme on a dit, et de commencer à te laver de cette manière, ceci prouve que tu as l'intention de l'acte. Et si telle est la situation, s'il n'y a rien à mentionner, ni à mentionner dans sa tête, ni avec sa langue, alors pourquoi les gens de science ont dit que cela est une condition de validité de l'acte? La réponse est premièrement, que celui qui n'a pas sa raison, il ne pourra pas avoir l'intention. Donc, il ne pourra pas faire les ablutions. Et cela ne lui est pas demandé car la plume pour lui, elle est levée. Deuxièmement, il se peut qu'une personne, par exemple, un jour de grande chaleur, elle commence à se rafraîchir le visage parce qu'elle a chaud. Et elle a chaud, il se rend à la salle de bain et il commence à se mouiller le visage. Puis, à ce moment, il se rend compte que c'est l'heure de la prière. Est-ce qu'il peut compter ce lavage du visage comme faisant partie de ses ablutions? La réponse est non, car il n'en avait pas l'intention. Mais s'il souhaite faire ses ablutions, il devra commencer ses ablutions du début et ne pas prendre en considération ce lavage, car il ne l'a fait que pour se rafraîchir le visage. C'est pour cela que les savants ont mentionné l'intention comme condition de validité de l'acte. Et cette intention, elle est différente de l'intention de la motivation de l'acte. Qu'est-ce que cela signifie? L'intention de l'acte, on a dit, c'est le fait que tu souhaites faire tes ablutions. Et ceci accompagne nécessairement ton acte. Et l'intention de la motivation de l'acte, c'est quoi? C'est-à-dire pour qui accomplis-tu cet acte? Es-tu sincère dans cet acte? Accomplis-tu cet acte sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala? afin de te rapprocher de lui et d'obtenir son agrément. Et ceci est une autre intention qui est une condition, elle, de l'acceptation de l'acte. Pour que tes adorations soient acceptées, il est indispensable qu'elles soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première intention, c'est une condition de la validité de l'acte, que tu aies l'intention de faire tes ablutions, de lever l'état d'impureté. Et la deuxième intention, c'est une condition de son acceptation. Et ce que cet acte, il soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que l'on retrouve dans le hadith. Les actes ne valent que par les intentions. Ils ne sont valides qu'avec une intention. Quelqu'un qui accomplit un acte sans intention, alors celui-ci ne peut être valide. Et chacun sera rétribué en fonction de son intention. Ceci est le deuxième type d'intention, qui est l'intention de la motivation de l'acte. Qu'est-ce qui t'a motivé à accomplir ces ablutions? Tu les as accomplies, mais il est là sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala afin de te rapprocher de lui. Et ainsi tu seras rétribué en fonction de cela. Ensuite il dit, rahimahullah, le deuxième point, thumma yaqul bismillah. Ensuite il dit bismillah. C'est-à-dire, avant de commencer les ablutions, tu mentionnes le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, d'après le hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions. Et il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par les imams Ahmed, Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres, rahimahumullahu ta'ala. Et les gens de science ont divergé concernant le jugement de la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de faire les ablutions. La majorité des gens de science considèrent que cela est recommandé et que cela n'est ni une condition ni une obligation. Et certains parmi les gens de science, comme l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala et d'autres, ont dit que cela est une obligation pour celui qui s'en rappelle. C'est-à-dire qu'il ne convient pas de délaisser la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala volontairement. Mais si tu oublies que tu fais les ablutions et qu'après avoir fait les ablutions, tu te rends compte que tu as oublié de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, tes ablutions sont valides. Mais si tu t'en rappelles, il ne convient pas de délaisser la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi tu sors de cette divergence. Et certains posent la question, qu'en est-il si j'accomplis mes ablutions dans une salle de bain dans laquelle il y a des toilettes? Comme on le sait, il est réprouvé de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les toilettes. Mais s'il n'y a que cet endroit pour faire les ablutions, dois-je mentionner ou non le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et dire bismillah avant de commencer? Certains parmi les gens de science ont dit que tu te contentes de le dire dans ton cœur, tu le dis en toi-même. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit qu'il n'y avait pas de gêne à le prononcer avec la langue, car ceci est une obligation des ablutions. Il n'y a donc pas de gêne dans cette situation. Et si la personne prononce le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de rentrer, c'est-à-dire que tu souhaites rentrer dans la salle de bain pour accomplir tes ablutions, tu prononces bismillah à l'extérieur, puis tu entres et tu fais tes ablutions. Alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit dans le troisième point, puis il lave ses mains à trois reprises. Le premier lavage des mains lors des ablutions, il se fait jusqu'au poignet. Et cela est recommandé avant de mettre ta main dans le récipient qui contient l'eau et de puiser l'eau. Ceci est donc un acte qui est recommandé. Et ce, afin de pouvoir puiser l'eau lors de tes ablutions avec des mains propres. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, dans le quatrième point, thumma yatamadmad. Puis ensuite, il se rince la bouche et le nez à trois reprises, et ce, en puisant l'eau trois fois. Le rinçage de la bouche et du nez, ils font partie de la perfection du lavage du visage lors des ablutions. Et ceci est prouvé par de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par sa parole ou par ses actes. En effet, lors de ses ablutions, il le faisait constamment. Chaque fois qu'il faisait ses ablutions, et à chaque fois qu'elles nous ont été décrites, il nous est rapporté qu'il se rinçait la bouche et le nez lorsqu'il se lavait. Et il a ordonné de le faire, sallallahu alayhi wa sallam. Il a même ordonné d'insister sur cela, d'insister lors du rinçage du nez, à l'exception du jeûneur. Il a dit, insiste sauf si tu es en état de jeûne. Car si tu es en état de jeûne, il y a des risques que l'eau atteigne ta gorge. C'est pour cela qu'il n'est pas recommandé, lorsqu'on est en état de jeûne, d'insister sur cela. Et l'obligation est de le faire une fois. Et il est recommandé de le faire à trois reprises. Et le Shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, en puisant l'eau trois fois. C'est-à-dire que tu prends de l'eau dans ta main et tu mets une partie de cette eau qui est dans ta main dans ta bouche et tu aspires une autre partie avec ton nez en puisant l'eau une seule fois. Ensuite, tu rinces ta bouche avec l'eau et tu la rejettes hors de ta bouche, puis tu souffles avec ton nez pour faire sortir l'eau ainsi que les saletés qui peuvent s'y trouver. Il est recommandé de faire sortir ce qui se trouve dans le nez, mais ce n'est pas une condition de validité. Cela fait partie de la perfection de ce nettoyage. Et tu renouvelles cela à trois reprises. On voit donc qu'il est contraire à la sunna de prendre de l'eau une fois pour rincer sa bouche, puis une fois pour rincer son nez. Car la personne, ainsi, elle prendra de l'eau combien de fois? Six fois. Mais le shaykh, rahimahullah ta'ala, il nous dit que ce qui est légiféré, c'est de ne puiser l'eau qu'à trois reprises. Ensuite, il dit, rahimahullah, dans le cinquième point, ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. Puis il lave son visage à trois reprises. Comme pour le rinçage de la bouche et du nez, l'obligation est de ne le faire qu'une fois. Et le mieux, et ce qui est recommandé, est de le faire à trois reprises. Et la délimitation du visage qu'il est obligatoire de laver, c'est de haut en bas, du sommet du front, c'est-à-dire de la ligne frontale qui sépare le front du cuir chevelu, jusqu'au bas du menton. Et de droite à gauche, c'est d'une oreille à l'autre, et les oreilles ne sont pas incluses, car comme on va la voir, le rinçage des oreilles, il a lieu lors de l'effleurement de la tête. Donc il est obligatoire de passer de l'eau sur l'ensemble du visage, une fois. Et il est recommandé de le faire à trois reprises. Et concernant la barbe, les gens de science ont mentionné que si elle est fine, c'est-à-dire si elle ne couvre pas la peau, qu'on voit la peau de la personne à travers la barbe, alors il faut la frotter pour que l'eau atteigne la peau qui est en dessous de la barbe. Mais si la barbe est épaisse, qu'elle recouvre la peau, qu'on ne voit pas la peau à travers de celle-ci. Alors, il suffit de faire passer l'eau dessus, et le mieux, ce qui est recommandé, est de passer ses mains mouillées à l'intérieur de la barbe et de la frotter. Mais ceci n'est pas une obligation, c'est seulement recommandé. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala dit dans le sixième point, وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا. Et il lave ses deux mains jusqu'au coude à trois reprises. Comme pour le visage, l'obligation est de les laver une fois. Il est recommandé et préférable de le faire à trois reprises. Après avoir lavé ton visage, tu laves donc tes mains jusqu'au coude, c'est-à-dire de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Et non pas comme beaucoup de personnes le pensent, seulement des poignets jusqu'au coude. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils font leurs ablutions, étant donné que l'on commence par se laver les mains, ils pensent qu'après avoir lavé leur visage, il suffit de laver des poignets jusqu'au coude. Et ceci est une erreur. Car ce qui est obligatoire, après avoir lavé le visage, c'est de laver tes mains entièrement jusqu'au coude, c'est-à-dire de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus. Car comme on a dit, le premier lavage des mains, il est seulement recommandé. Cela ne fait pas partie des obligations des ablutions. Mais c'est seulement un lavage qui est recommandé. Et le lavage des mains qui est obligatoire, c'est celui qui a lieu après le lavage du visage. Donc après avoir lavé ton visage, il est obligatoire que tu laves tes mains de l'extrémité des doigts jusqu'au coude inclus au moins une fois. Et le mieux est ce qui est recommandé de le faire à trois reprises. Et la sunna est de commencer par la droite. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala dit dans le septième point: وَيَمْسَحْ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى الْمَحَلِّ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً. Ensuite, il effleure sa tête du sommet du front, c'est-à-dire là où les cheveux commencent à pousser, jusqu'à sa nuque avec ses deux mains. Il met ses deux mains sur sa tête et il effleure l'ensemble de sa tête, du sommet du front jusqu'à sa nuque. Puis il les fait revenir à l'endroit d'où il a commencé. Tu fais revenir tes mains une seule fois. C'est-à-dire que l'effleurement de la tête, il n'est légiféré qu'une seule fois. Il ne fait pas partie de la sunna de le faire à trois reprises. Car il n'est rapporté dans aucun hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait fait ou ait ordonné de le faire plus d'une fois. Et vous remarquez qu'en ce qui concerne la tête, ce qui est légiféré, c'est simplement de l'effleurer. et ce n'est pas un lavage. Ce n'est donc pas une condition lorsque tu effleures ta tête que l'eau atteigne la peau de ton crâne, ni de mouiller l'ensemble de tes cheveux. Mais il suffit simplement que tu passes tes mains mouillées du sommet de ton front jusqu'à ta nuque, puis que tu les fasses revenir à l'endroit où tu as commencé. Et c'est seulement un effleurement, il n'y a pas besoin de frotter. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils font leurs ablutions, ils frottent leur tête. Cela n'est pas légiféré, ce n'est pas demandé. Ce qui est demandé, c'est simplement que tu effleures, comme on l'a mentionné, car ce n'est pas un lavage. Ensuite, il dit, rahimahullah, dans le huitième point, ثُمَّ يُدْخِلْ سَبَاحَتَيْهِ فِي سِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ وَيَمْسَحْ بِإِبْهَامَيْ ظَاهِرَهُمَا. Ensuite, il entre ses index dans le conduit de ses oreilles et il effleure l'arrière de ses oreilles avec ses pouces. Donc après avoir passé tes mains mouillées sur ta tête, il est légiféré que tu entres tes index dans chacune de tes oreilles, dans le conduit seulement, et qu'avec ton pouce, tu effleures l'arrière de tes oreilles. Et pour cela, il n'est pas nécessaire que tu prennes une nouvelle eau. Mais l'humidité qu'il reste sur tes mains après avoir passé tes mains mouillées sur ta tête suffit. Et également, il n'est pas demandé que tu te contraignes à mettre de l'eau sur l'ensemble de ton oreille. Mais ce qui est demandé, c'est simplement d'entrer les index dans le conduit de l'oreille et avec le pouce, d'effleurer l'arrière de l'oreille. Cela est suffisant et c'est ce qui est légiféré lors des ablutions. Enfin, dans le neuvième point, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « Thumma yaghsil مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. Ensuite, il lave ses pieds avec les chevilles à trois reprises. Et le lavage des pieds également, c'est une obligation lors des ablutions. Il est obligatoire de laver les pieds une fois. Et le meilleur et ce qui est recommandé est de le faire à trois reprises. Et le lavage des pieds, il comprend l'ensemble du pied, les chevilles incluses, et également le lavage du talon. Il y a certaines personnes qui négligent le lavage du talon lorsqu'elles font les ablutions. Mais il est obligatoire que l'eau atteigne l'ensemble de ton pied et les chevilles incluses. Et la sunna est de passer ton auriculaire entre tes doigts de pied lors des ablutions. Ceci fait partie de la perfection du lavage des pieds. Ce n'est pas une obligation, car si l'eau a atteint l'ensemble de ton pied, tes ablutions sont valides. Mais cela est meilleur et préférable. Et le lavage des pieds, il peut être remplacé par l'effleurement sur les chaussons, sous certaines conditions, comme on le verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci sont les ablutions les plus complètes que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que la description que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a donnée, c'est la manière la plus complète de faire les ablutions. Comme cela nous est rapporté de Uthman radiallahu ta'ala anhu, qui un jour demanda qu'on lui rapporte de l'eau pour faire des ablutions. Il alors fait ses ablutions, s'est lavé les mains à trois reprises, puis s'est rincé la bouche et s'est rincé le nez. Puis il a lavé son visage à trois reprises. Puis il a lavé sa main droite jusqu'au coude à trois reprises. Puis il a lavé sa main gauche de la même manière. Ensuite, il a effleuré sa tête, puis il a lavé son pied droit jusqu'aux chevilles à trois reprises, puis il a lavé son pied gauche de la même manière. Ensuite, il a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions de cette manière. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. On voit donc que la description des ablutions qui nous est donnée dans ce hadith correspond à ce que l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous a mentionné ici. Ensuite, il dit, وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ. Et ce qui est obligatoire dans cela, c'est-à-dire dans toute la description que l'on vient de voir, qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est indispensable de faire pour que mes ablutions soient valides? Il dit premièrement, أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً. Ce qui est obligatoire, c'est que tu laves chaque membre une fois. Comme on l'a vu, l'obligation en ce qui concerne le rinçage de la bouche et du nez, le lavage du visage, le lavage des mains jusqu'aux coudes et le lavage des pieds jusqu'aux chevilles, c'est de le faire une seule fois. Et l'effleurement de la tête, il a lieu une seule fois en toute situation. Mais en ce qui concerne le lavage des membres, il est recommandé et préférable de le faire à trois reprises. Mais l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit ses ablutions en lavant chacun de ses membres une seule fois. Et dans notre hadith, en le lavant deux fois. On déduit donc de cela que l'obligation ne concerne que le premier lavage. Quant au second lavage et au troisième lavage, ils sont recommandés. La manière la plus parfaite de faire les ablutions est de se laver trois fois. Mais si tu te laves une seule fois, alors les ablutions sont valides. Si tu te laves deux fois également, les ablutions sont valides, inshallah ta'ala, et cela est légiféré. Et de la même manière, il est légiféré que le nombre de lavages diffère. Que tu laves ton visage une fois, tes mains deux fois, tes pieds trois fois, et il n'y a pas de gêne en cela, tes ablutions sont valides, inshallah ta'ala. Ensuite, il dit: « وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ». Il dit que tu les fasses dans l'ordre. Ceci est une obligation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans sa parole, « Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, puis passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. » Les gens de science ont mentionné que ce verset, il nous démontre ce qui est obligatoire lors des ablutions, c'est-à-dire le lavage du visage, le lavage des mains jusqu'aux coudes, le fait de passer les mains mouillées sur la tête et de laver ses pieds jusqu'aux chevilles. Mais également, il nous prouve l'obligation de faire cela dans l'ordre. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le fait de passer les mains mouillées sur la tête au milieu de deux membres qui sont lavés, c'est-à-dire entre le lavage des mains et le lavage des pieds. Donc si l'ordre n'était pas une obligation, il aurait mentionné les membres à laver tous ensemble, puis il aurait mentionné la tête pour laquelle il suffit de passer les mains mouillées dessus. Mais le fait d'avoir mentionné l'effleurement de la tête entre le lavage des mains et le lavage des pieds nous prouve que l'ordre est recherché et que cela est une obligation. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit, toujours en mentionnant ce qui est obligatoire lors des ablutions, « وَأَلَّا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ عُرْفًا بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَكَذَا كُلُّ مَا اشْتُرِطَتْ لَهُ الْمُوَالَاةَ » Il dit troisièmement parmi les choses qui sont obligatoires lors des ablutions, c'est qu'entre le lavage d'un membre et le lavage du membre suivant, il n'y ait pas un grand intervalle de temps selon l'usage. C'est-à-dire que tu commences par exemple à laver ton visage. Si tu t'arrêtes un court instant, puis que tu reprends en lavant tes mains jusqu'au coude, alors il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Mais si tu t'arrêtes un long moment, alors il est obligatoire de recommencer les ablutions du début. Par exemple, tu es en train de faire tes ablutions, tu viens de laver ton visage, puis on frappe à la porte. Tu penses que c'est une personne que tu attends, donc tu as l'intention de simplement lui ouvrir la porte, puis de retourner immédiatement continuer tes ablutions. Dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Mais si lorsque tu arrives à la porte, tu te rends compte que ce n'est pas la personne que tu attends, puis que tu restes plus de temps à la porte à discuter avec cette personne, par exemple, alors dans ce cas-là, tu devras reprendre tes ablutions à leur commencement. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il dit, de sorte que il n'est pas possible de se baser sur une partie des ablutions pour continuer le reste. C'est-à-dire que tu as lavé une partie de tes membres, puis tu t'es arrêté, et tu reviens et tu souhaites recommencer là où tu t'es arrêté. Cela n'est pas possible, comme on a dit, s'il y a eu un grand intervalle de temps. Quelle est la preuve à ce sujet? La preuve est le hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit qu'un homme avait fait les ablutions, mais il y avait une petite partie de son pied qui n'avait pas été touché par l'eau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, il lui a dit « Repars et fais tes ablutions correctement. » Il est donc retourné faire ses ablutions, puis il a prié. Les gens de science ont mentionné que ceci est une preuve qu'il est obligatoire de ne pas laisser d'intervalle entre le lavage des différents membres lors des ablutions. En effet, si ceci n'était pas une obligation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui aurait simplement ordonné de mouiller cette partie de son pied qui n'avait pas été atteinte par l'eau. Mais le fait qu'il lui a ordonné de recommencer les ablutions, ceci nous prouve qu'il est obligatoire de laver les membres, les uns à la suite des autres. Et le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit, et il en est de même pour toute chose dans laquelle la continuité est une condition. Par exemple, pour l'appel à la prière, c'est une condition de le faire en prononçant les différentes paroles les unes à la suite des autres. Par exemple, quelqu'un commence à faire l'appel à la prière, qu'il dit quatre fois Allahu Akbar, puis ensuite, il s'arrête un long moment, il discute avec quelqu'un, est-ce qu'il peut reprendre et dire « Ashhadu an la ilaha illallah » Non, il sera indispensable qu'il recommence l'appel à la prière du début. Donc il en est de même pour les ablutions. Ceci sont donc quelques questions que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionnées ici concernant les obligations des ablutions. Quant au fait de commencer par la droite, ceci est recommandé et n'est pas obligatoire. Également, il est recommandé lors des ablutions l'usage du siwak, de se nettoyer la bouche avec le siwak. Et également, comme on l'a mentionné déjà dans un cours précédent, le fait d'économiser l'eau, de ne pas gaspiller l'eau lors des ablutions, en laissant le robinet couler à flot, mais il est préférable de prendre un récipient pour prendre une petite quantité d'eau suffisante pour faire les ablutions, et ce sans excès. Également parmi les choses recommandées lors des ablutions, une fois que tu les as terminées, après t'être lavé les pieds, il est légiféré de prononcer la formule de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est recommandée, et qui est de dire أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمام مسلم رحمه الله تعالى rapporte d'après عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Il n'y a personne parmi vous qui fait ses ablutions et s'applique afin de les faire parfaitement. On revoit encore une fois de plus l'importance de s'appliquer dans ses ablutions. Puis qui dit: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Il n'y a personne parmi vous qui fait ses ablutions et s'applique afin de les faire parfaitement, puis prononce cette parole sans que les 8 portes du paradis lui soient ouvertes, les 8 portes du paradis, et qu'il puisse y entrer par celle de son choix. Barakbar. Tu vois le mérite qu'il y a dans les ablutions. Il y a un grand mérite en cela. C'est pour cela qu'on a dit que c'est une adoration importante. Un nombre de personnes ne se rendent pas compte de la valeur des ablutions. Lorsque tu fais tes ablutions, c'est une cause pour te faire pardonner tes péchés, comme on l'a vu en début de cours dans les hadiths. Également, c'est une cause pour être illuminé au jour de la résurrection. Et si tu prononces cette formule de rappel après tes ablutions, les 8 portes du paradis te sont ouvertes et tu pourras y entrer par celle de ton choix. Il ne convient donc pas aux musulmans de négliger cela. Également, parmi les choses recommandées après les ablutions, il y a le fait de faire 2 unités de prière. Une fois que tu as terminé tes ablutions, tu fais 2 unités de prière surérogatoires. Et ce n'est pas une condition qu'elle soit indépendante d'une autre prière. C'est-à-dire, par exemple, si c'est la prière du Fajr, tu te lèves, tu fais tes ablutions, et tu vas accomplir les 2 unités surérogatoires qui précèdent la prière du Fajr. Alors, ceci est suffisant. Si c'est la prière du Dhuhr également, que tu accomplis la ratiba du Dhuhr, tu mets en même temps l'intention de la sunna des ablutions. Et si tu accomplis tes ablutions à un autre moment, alors il est légiféré d'accomplir 2 unités de prière après celle-ci. Et il y a un grand mérite en cela. En effet, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, qu'il a dit un jour à Bilal, après la prière du Fajr: Ô Bilal, dis-moi quelle est l'œuvre que tu as accomplie en islam et dont laquelle tu espères le plus, car j'ai entendu le son de tes pas devant moi au paradis. Alors Bilal radiallahu ta'ala anhu lui répondit que l'œuvre pour laquelle il avait le plus d'espoir est le fait qu'à chaque fois qu'il faisait ses ablutions, de jour comme de nuit, il priait après celle-ci. 2 unités de prière. On voit donc qu'il y a un grand mérite en cela. Un grand mérite dans le fait de faire suivre tes ablutions de 2 unités de prière. Et ce n'est pas une condition que ce soit 2 unités de prière indépendantes des autres prières surérogatoires. Mais si tu accomplis les 2 unités surérogatoires qui précèdent la prière du Fajr ou la prière du Dhuhr, alors ceci est compté, inshallah ta'ala. Et s'il n'y a pas de prière légiférée à ce moment-là, alors il t'est permis d'accomplir 2 unités de prière afin d'obtenir ce mérite immense. Et cette prière, elle est même permise durant les moments dans lesquels il est interdit de prier, car elle a une cause. Et la cause, c'est que tu viens de faire tes ablutions. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on verra dans le cours de demain les questions liées à l'effleurement sur les chaussons, ainsi que sur les plâtres ou le pansement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا